Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 26 octobre 2020, toujours dans la parachate Noar, et nous allons essayer de continuer à approfondir ces notions de la Bible, ces notions de la Genèse, qui sont toutes des notions sources, des notions, j'allais dire, entre guillemets, racines. Tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous allons vivre depuis, eh bien, sont reliés directement, même d'une manière cachée, à ces éléments, à ces événements, à ces histoires sources. Et ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps, c'est-à-dire dans ce temps du retour du peuple juif sur sa terre, devenu progressivement hébreu, eh bien, ce qui se passe de nos jours sont reliés, bien entendu, directement à ces événements sources. Mais nous vivons ces événements sources en accéléré. Et pour dire un peu plus, si vous voulez, profondément, ces événements sont vécus aujourd'hui non seulement en dynamique, donc en accéléré, mais aussi des événements qui vont être reliés directement les uns aux autres. Aujourd'hui, nous vivons, si vous voulez, à la fois le temps du déluge de Noar, et nous allons expliquer un peu profondément tout à l'heure. Nous vivons à la fois le temps de Nimrod avec la tour de Babel, et nous vivons malheureusement toujours à la fois les temps de Sodome, de Gomorre et des villes qui ont fauté. Les temps de la fin sont des temps terribles, parce que Dieu est, au niveau du Din, prêt à intervenir. Au niveau du Chesed, il est lancinant, il attend. Et donc, nous vivons un temps d'espoir, un temps de désespoir, un temps de mélange, un temps de chute et d'inversement des valeurs. Bref, ce que Noé, la génération de Noé, la génération de Nimrod et la génération de Sodome, eh bien, ont vécu chacune à leur époque, nous vivons aujourd'hui en accéléré ces mêmes événements. Regardons un peu, très rapidement, ce que disent les maîtres du Sod au niveau de la faute qui a appelé le déluge. La faute s'appelle en hébreu, en termes de Torah, Hamas. Hamas, disent les Chachamim, signifie non pas le vol à tire-larigot, le vol, si vous voulez, en quantité importante, mais pas du tout. Il s'agit, si vous voulez, de parochat mipruta, c'est-à-dire moins que une très petite quantité. Mais cette petite quantité multipliée par des milliers de petites quantités forme une très grande quantité. Et cette très grande quantité, tant qu'elle est, si vous voulez, cachée à l'intérieur des cœurs, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des forces individuelles, elle n'est pas encore révélée au grand public, alors ces forces-là sont quelque part au niveau des masses, au niveau des masses, si vous voulez, elles sont contrôlables. Mais à partir du moment où ces forces deviennent forces de loi, deviennent source de l'immoralité collective, je dis bien collective, à partir du moment où il est normal d'être injuste, où il devient normal pour un juge de tronquer, de fauter, de mentir, où il devient pour un capitaliste normal de voler, parce que c'est dans l'ordre des choses, dans les normes absolues des choses, alors là nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est-à-dire que le djinn va pouvoir s'extérioriser, chas v'shalom. Et un deuxième point très important, c'est que le fait que l'humanité, à ce moment-là, au temps de la génération de Noé, est arrivée à ce point de non-retour, où il n'y a plus aucune possibilité de tchouva. Pourquoi? Parce que le retour vers soi et le retour vers la source collective devient absolument impossible, puisque on est sûr et certainement sûr d'avoir atteint son propre émet, sa propre vérité, sa propre morale. Comme il y a eu une inversion des valeurs, alors l'immoralité devient moralité. Et à partir de ce moment-là, on ne comprend pas. La génération de Noé, n'est-ce pas? Noé a construit son arche sous les ordres d'Elohim, sous l'ordre de Dieu, pendant 120 ans. Pendant 120 ans, les gens vivaient très très bien, c'était très calme, c'était magnifique, on manquait de rien du tout, n'est-ce pas? Il y avait absolument aucune, presque aucune douleur, il y avait pas véritablement de conflit grave. Les gens étaient arrivés à un certain niveau d'apaisement qui était tout simplement lié directement, pensait-il, au Mashiach, c'est-à-dire véritablement à ce temps cosmique qui est le temps de la fin. Ils étaient absolument persuadés qu'ils avaient atteint tout simplement la symbiose, la paisibilité, le bonheur. Eh bien, par surprise, le déluge est arrivé. Alors il s'agit d'un déluge, si vous voulez, qui s'est passé, les Rachamim sont très, 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 très nombreux à avoir, évidemment, commenté tout cela. Il y a eu des milliers de livres là-dessus. Mais en fait, au niveau du Sod, au niveau des secrets, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, vous savez que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Le second jour, il a divisé les forces du ciel, des forces de la terre. Et cette division-là, elle a été voulue par HaKadosh Baruch Hu. Parce que le but, n'est-ce pas, c'est de réunir les deux contraires. La terre étant par nature féminine, le ciel étant par nature masculine, il fallait réunir cela, mais à la fin des temps de l'histoire. À la fin des temps de l'histoire. C'est-à-dire, véritablement, séparer le monde de la terre du monde du ciel, mais de manière à ce que le monde de la terre puisse et veuille se rapprocher coûte que coûte du monde du ciel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce désir de l'homme d'avancer vers HaKadosh Baruch Hu, de rechercher HaKadosh Baruch Hu, de prier HaKadosh Baruch Hu, de vivre avec HaKadosh Baruch Hu. Mais quand ce sentiment, ces actes ne sont plus directement liés vers le ciel, mais au contraire vers l'ego, vers l'égocentrisme, vers l'individualisme, vers le fait que, après moi, le déluge, comme on dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire le bonheur pour le bonheur. À partir de ce moment-là où il n'y a pas de lien entre le ciel et la terre, alors à partir de ce moment-là, que fait Dieu? Eh bien, il fait l'union des contraires. C'est-à-dire qu'il va réunir le ciel et la terre. Les eaux d'en bas, n'est-ce pas, vont se réunir avec les eaux d'en haut. Les eaux d'en bas, en hébreu, s'appellent dans la Torah Te'um Rabba, les sources du grand abîme, pardon, et les sources d'en haut, ce sont les sources Hashamaim. Alors, les sources de la terre étant évidemment liées directement au principe féminin, la terre a voulu, si vous voulez, se séparer. Elle a fauté même à la limite plus que l'homme. Elle a voulu se séparer, n'est-ce pas? Dieu a créé des arbres, par exemple, qui étaient des arbres fruits. Non, ces arbres fruits sont devenus des arbres fruitiers. C'est-à-dire que de cette écorce, de ce tronc qui n'était pas comestible, qui n'était pas le fruit, eh bien, va sortir un fruit. C'est-à-dire qu'il y a eu, si vous voulez, une sorte de déconnexion entre la terre et la volonté suprême. Et cette féminisation, si vous voulez, de la nature, n'est-ce pas, a provoqué véritablement une sorte de implosion des systèmes. Mais dans cette implosion des systèmes, personne ne voyait rien du tout. Personne ne voyait rien du tout. Et c'est pareil. Et cela a amené véritablement, génération après génération, n'est-ce pas, puisqu'il y a eu 10 générations entre Noé et Abraham Avinu, eh bien, entre Noé et Abraham Avinu, il y a eu encore, si vous voulez, une volonté de l'homme de se séparer définitivement de Dieu, du divin, de séparer la terre la terre du ciel, eh bien, cela a entraîné la tour de Babel, c'est-à-dire, ça a entraîné tout simplement la dictature. Et qu'est-ce que c'est que la dictature? C'est un état, si vous voulez, socio-politique, où un individu, un groupe d'individus, pense avoir atteint la réalité, la vérité, et cette vérité qui leur a été en eux, qui a été en eux révélée, mais révélée par quoi? Par les forces de la nature, et non plus par Dieu. Eh bien, c'est par la raison, si vous voulez, par l'intelligence humaine, et non plus par la réception des forces du ciel vers les forces de la terre. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de dichotomie. Et Akadosh Baruch Hu, avec cette pensée unique, n'est-ce pas, ça vous dit quelque chose, la pensée unique, la mondialisation, avec cette pensée unique, eh bien, il y a véritablement l'implosion de toutes les valeurs. Parce que, véritablement, l'homme est devenu esclave de la pensée unique, esclave de la mondialisation aujourd'hui, esclave d'une sorte de dosification de, si vous voulez, de réalisation des forces de la matière qui font que, véritablement, Akadosh Baruch Hu ne peut plus, dans ce monde-là, s'exprimer, si on peut se permettre de dire cela, ne peut plus se révéler, c'est un peu plus juste, à son humanité, qui est à une humanité qui est malade, qui est meurtrie. Et cela entraîne aussi une troisième catégorie d'intervention, qui est l'intervention de Dieu par le feu, par Sdom, n'est-ce pas, autant de Moshe, de Noé, c'était par l'eau. Il a réuni les sources d'en bas et les sources d'en haut, comme c'était au premier jour, entre parenthèses. Et c'est ça qu'on va vivre à la fin des temps. À la fin des temps, on va vivre aussi cette réunion des forces d'en haut et des forces d'en bas, avec une humanité qui sera, si vous voulez, tellement prise par ses problèmes, tellement prise par ses habitudes, qu'elle ne verra plus rien du tout. Elle vivra tout simplement à la recherche d'un bonheur qui est un bonheur tout à fait factice, tout à fait superficiel, et donc elle va être prise par surprise, comme au temps de la génération du déluge. Dieu a promis qu'il n'y aura pas de déluge à la fin des temps de l'histoire, et il n'y aura pas de déluge à la fin des temps de l'histoire, c'est-à-dire que toute l'humanité ne va pas partir, mais ce qui va disparaître, ce sont les forces du mal, ça c'est sûr. Ce qui va disparaître, ce sont les forces de Nimrod. Ces pays qui se disent républicains, qui se disent laïcs, et qui veulent, coûte que coûte, empêcher, si vous voulez, l'homme de retrouver son Dieu. Ça, c'est certain. Et parce que le temps de Noé et le temps de Nimrod entraînent le temps de Sdom. Et le temps de Sdom, c'est un temps où véritablement, il n'y a plus de juste. C'est-à-dire que tout est libéralisé, tout est accepté, l'immoralité devient moralité, notamment au niveau sexuel, et cela entraîne véritablement la déstructuration des mondes. Et un point fondamental, si Dieu n'avait pas envoyé Noé, qui était un homme certes universel, mais qui était universel égocentré, si vous voulez, il pensait encore à lui et à sa famille. Il n'est pas parti vers l'autre, vers l'universel, n'est-ce pas, autre, pour pouvoir prévenir. Il n'a pas joué un rôle il n'a pas prié pour l'autre. Il n'a pas joué un rôle de mécène. Il a, au contraire, travaillé, laissé la génération aller selon ses propres lois, sa propre fixité, si vous voulez, et lui, il a continué jour après jour à construire son arche pendant 120 ans. Et entre parenthèses, 120, c'est lié directement à la Shlemout, c'est-à-dire à l'union de tous les contraires. Et donc, ce qui est très important, c'est en fait que Noé a été un élément central pour atteindre l'unité. Puisqu'il a tout simplement construit cette arche de manière à sauver ce qui peut être sauvé sous les ordres de Dieu, bien entendu, du monde. De ce monde qui était un monde qui avait atteint un niveau de pourriture exacerbé. Mais tandis qu'Abraham est un homme universel par excellence. Et c'est ce passage de Noé à Abraham qui est en fait le passage fondamental qui va permettre la sortie du Machiav ben David. Merci.